Radio Okapi. Voici les titres de votre journal dominical matinal. Clôture hier samedi à Kinshasa de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le président entrant, le Gabonais Ali Bongo Ondimba, a invité ses pairs à se pencher sur les mécanismes de mobilisation des ressources. En France, certains requérants dont les passeports ont expiré sont en difficulté d'obtenir les cartes d'électeurs au niveau du centre d'identification et d'enrôlement ouvert à Paris. Ils sont obligés d'obtenir une carte consulaire au niveau de l'ambassade moyennant 50 euros. Notre invitée, la sous-secrétaire générale de l'ONU aux droits de l'homme, Bran Keiris, plaide pour l'aboutissement de l'adoption de la loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes. Ouvrons ce journal avec cette information de la province du Sud-Kivu. Théo Nguabudjekassi n'est plus gouverneur de cette province. Dans un message de service daté du 24 février 2023 et signé par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jean-Claude Molipé confirme Malago Kachekere Marc comme gouverneur intérimaire en attendant l'organisation de l'élection du nouveau gouverneur. Rappelons que Théo Nguabudjekassi avait été déchu de ses fonctions de gouverneur par une motion de déchéance votée le 24 novembre 2022. Par l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu. Dans l'actualité, ce dimanche clôture hier samedi à Kinshasa de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Dans son discours de prise de fonction en tant que nouveau président de la CEAC, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a invité ses pairs à se pencher sur les mécanismes de mobilisation des ressources pour le financement des différents défis auxquels la sous-région de la CEAC fait face. On écoute le président Ali Bongo Ondimba.
Au moment où il me revient ce jour de prendre la présidence tournante de notre communauté, la scène internationale reste confrontée à de nombreuses crises et défis multiformes. Je pense notamment aux effets du changement climatique et aux menaces sécuritaires dans le golfe de Guinée, au Sahel, dans le bassin de la Tchad et à l'est de la RDC. Toutefois, en dépit de ce contexte difficile, j'ai véritablement foi en la capacité de notre institution commune à relever, comme elle l'a toujours fait, tous les défis auxquels elle a été confrontée. Ceci nous commande d'agir de manière collective, avec détermination et solidarité, pour nous approprier les dossiers de notre espace régional. En ce sens, et tout au long de mon mandat de président de la CEAC, j'entends porter une attention toute particulière au chantier du financement de notre organisation communautaire. Après toutes ces années, le mécanisme de financement qu'est la contribution communautaire d'intégration, tel qu'à nouveau inscrit dans le plan d'activité 2023 de la CEAC, tarde à mobiliser les ressources attendues. Aussi, nous faudrait-il peut-être examiner les termes de sa modification ou de sa substitution à d'autres instruments plus appropriés.
Prenant la parole pour sa part afin de clôturer cette 22e session, le président de la RDC et président sortant de l'organisation a invité ses pairs à plus de coopération et d'échanges, notamment pour la mise en œuvre de la stratégie de développement de l'économie bleue durable en Afrique centrale, à la suite de l'adoption de la politique intégrée de mer et des eaux continentales partagées de la CEAC. On écoute le président Félix Tshisekedi.
Au terme des travaux de cette 22e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC en sigle, je ne puis également manquer d'exprimer ma satisfaction quant aux pertinentes résolutions et décisions qui ont été prises au terme de cette session ordinaire par la conférence et j'appelle à ce que nous puissions collectivement veiller à leur mise en œuvre. Aussi, comme vous avez pu l'observer, cette 22e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC a abouti par l'adoption de la déclaration portant sur la politique intégrée des mers et des eaux continentales partagées de la CEAC ainsi que des principaux axes pour l'élaboration de la stratégie de développement de l'économie bleue durable en Afrique centrale. Cet engagement fort de notre part appelle à davantage de coopération et d'échanges pour une mise en œuvre et une matérialisation effective de cette volonté collectivement exprimée.
C'était un dossier réalisé par Pierrot et Lamangi. En France, certains requérants dont les passeports ont expiré sont en difficulté d'obtenir les cartes d'électeurs au niveau du centre d'identification et d'enrôlement des électeurs ouverts à Paris. Ils sont obligés d'obtenir une carte consulaire au niveau de l'ambassade moyennant 50 euros. Des sources proches de l'ambassade indiquent que le requérant doit payer étant donné que la carte lui remise à l'ambassade de la RDC en France est plastifiée. Correspondance de notre envoyé spécial Esther Ndalafina depuis Paris.
Quelques requérants trouvés ce samedi devant l'ambassade de la RDC en France n'ont pas eu accès au centre d'identification et d'enrôlement des électeurs. Ils sont bloqués à l'entrée à cause de l'expiration de leur passeport. D'autres rentrent à leur domicile par manque de 50 euros à payer pour les formalités d'obtention des cartes consulaires au niveau de l'ambassade de la RDC en France. Monsieur Bile déplore cette situation.
Je suis venu pour me faire enrôler. Sauf que on est confronté à un problème. Mon passeport est expiré depuis le mois passé. J'ai les documents qui prouvent ma nationalité congolaise. J'ai un séjour. Là, je suis bloqué par les vigiles. Je peux même pas passer. C'est lui qui me renseigne. Il dit que ça passe pas. Il faut la carte consulaire. Il faut payer 50 euros. En Belgique, c'est gratuit. La carte consulaire. Pourquoi deux poids, deux mesures? En Belgique, c'est gratuit. Si on nous fait payer 50 euros. C'est pas logique.
Des sources proches de l'ambassade de la RDC justifient le paiement de ces 50 euros par le fait que la carte consulaire remise est en plastique. Elle est dotée d'un code barre qui fait le lien avec le système informatique qui permet à l'ambassade et aux requérants de retrouver les informations nécessaires lors des prochaines demandes d'obtention de passeport ou d'actualisation des données. De Paris, Esther Ndalafina, Radio Okapi.
Sortie officielle hier samedi à Kinshasa du parti politique Action pour la dignité du Congo et de son peuple. Selon son président, l'ADCP se prépare à présenter des candidatures à tous les niveaux des scrutins aux élections de décembre 2023. Mais pour Corneille Nangaa, les éléments et les paramètres actuels ne présentent pas encore de garantie pour la tenue des bonnes élections. Il espère que les acteurs politiques et sociaux vont se saisir pour en discuter. Écoutez plutôt la vision et les objectifs de ce parti présentés par son président Corneille Nangaa.
Notre parti va aligner les candidatures à tous les niveaux des scrutins. L'offre à question vient d'être présentée et s'intitule « D'un État défaillant à un État moderne, espace d'opportunité et de libre-échange ». Nous voulons faire du Congo un business land. Notre vision est déclinée autour des quatre objectifs clés. La refondation de l'État, faire du Congo une zone de libre-échange, booster l'économie nationale. Et nous avons notre slogan, nous devons démocratiser la nourriture. Au-delà des soins, éduquons nos enfants, mais formons aussi l'homme congolais. Le dernier objectif, c'est plutôt la question des recherches, des ressources naturelles et surtout de l'environnement. Les quatre valeurs sur lesquelles nous fondons notre offre, c'est d'abord le travail, patriotisme et civisme, l'humilité des faibles, la question de l'unité et la cohésion nationale. Nous envisageons de mettre en place des petits, des nano, des micro et des grands projets, en mettant surtout sur l'agriculture, avec toute la chaîne de valeur.
Au sud Kivu, le processus d'identification et d'enrôlement des électeurs se déroule aussi dans les coins les plus enclavés du territoire de Calais contre toute attente. L'administrateur de ce territoire s'est dit reconnaissant envers la MONUSCO qui a facilité le déploiement du matériel par voie aérienne. Toutefois, des petits soucis sont observés dans certains centres d'enrôlement. Reportage de Jean Kassami qui revient de Calais.
L'enclavement du territoire de Calais n'offrait aucun espoir à l'administrateur Thomas Bakenga que le kit d'enrôlement parviendrait à atteindre l'ensemble de 89 centres répertoriés dans tout Calais.
Il y avait un souci très majeur, parce que l'accès Bunyakiri et Kalongé, il y a un problème de route, pas de passage de véhicules, de motos. Et nous avons eu un soutien à la MONUSCO, nous a doté de ces avions pour que nous acheminions les kits de Kavumo jusqu'à Bunyakiri. Et nous devons remercier la MONUSCO. Ici, chez nous, à Calais, nous avons lancé le processus le jeudi 16 février et ça évolue parfaitement très bien.
Du côté de la société civile, la satisfaction est encore partielle. Tous les centres d'enrôlement ont été approvisionnés en kit, mais les pannes de machines persistent ici et là.
Il y a des blocages quelque part dans certains centres d'enrôlement dans le groupement de Mingacide, dans le groupement de Bouzi. dans les Hauts-Platons, précisément village d'échange. Il y a deux jours que les gens ne s'arrôlent pas dans les villages d'échange suite à un blocage des machines d'arrôlement.
Kalehe, Shabunda et Fizi occupent les trois premières places des territoires les plus enclavés du Sud Kivu. Bukavu, Jean Kasami, Radio Okapi.
La MONUSCO ne soutient ni de loin ni de près la rébellion du M23 et d'autres groupes armés, comme l'affirment certaines langues au Nord Kivu. Cette précision a été faite vendredi dernier par la société civile de Nyiragongo et la coordination provinciale du programme du désarmement, de mobilisation, réinsertion communautaire et de stabilisation à Kanyaruchinya dans les territoires de Nyiragongo. C'était lors de la cérémonie de remise par la MONUSCO de sept ex-combattants issus des différents groupes armés dont le M23. Le point avec Gabriel Ouamenia en direct de Goma.
Le premier à livrer sans ambiguïté ses constats, c'est le président de la coordination territoriale de la société civile de Nyiragongo, présent à la cérémonie. À vrai dire, l'appui de la MONUSCO comme partenaire du gouvernement congolais est salutaire. La MONUSCO n'appuie aucun groupe armé et surtout pas les mouvements rebelles du M23 à marteler Mambo Kawaya.
Combien de fois la MONUSCO nous a aidés à anéantir ces mêmes terroristes, ces mêmes groupes, ces mêmes combattants qui viennent du Rwanda, sur différentes lignes de front ici, et que aujourd'hui, si on avait le courage de laisser encore la MONUSCO à faire son travail, là, on peut ou soit on pouvait aussi encore peut-être arriver au résultat tel qu'on avait à bénéficier en 2013. Mais pourquoi ne pas s'attaquer à ces gens-là que nous connaissons très bien?
De son côté, le coordonnateur provincial adjoint du PDDR-CS qui a reçu ses ex-combattants invite les groupes de pression en province au bon sens. Soukissan Dayabagé.
La MONUSCO a fait tout pour tout de nous amener ces gens parce qu'ils se sont rendus avec les armes, avec des munitions. Si la MONUSCO appuyait le groupe armé, ils ne pouvaient donner au groupe armé. Et c'est pourquoi je fais appel à nos compatriotes de comprendre quel est le mandat de la MONUSCO au lieu d'aller dans des confusions inutiles pour donner l'occasion à l'ennemi.
Goma, Gabriel Ouamenya, Radio Okapi.
La ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, était en ébullition dans la mi-journée d'hier samedi. À la base, l'arrestation par les services de sécurité du célèbre criminel le plus recherché dans ce milieu, connu sous le nom de Serpent, présumé auteur de plusieurs actes de barbarie, notamment le meurtre de plusieurs personnes, coups et blessures, sabotage des domiciles des gens, vols qualifiés et autres. La population de Bandundu salue cette arrestation et exige que la justice soit faite et que ce bandit des grands chemins réponde publiquement de ses actes. Des détails avec Irène Boma.
C'est dans l'avant-midi de ce samedi que le fameux Serpent, chef d'une bande de gangsters tant recherché par les services de sécurité de la ville de Bandundu, vient enfin d'être arrêté vers le port de Bouzala par les éléments de FRDC et de la police. C'est un joli coup de filet salué par des milliers des habitants de cette ville qui ont assiégé en ce jour la cour du commissariat provincial de la police pour voir et charger celui qui les a insécurisés et pour exiger sa condamnation. C'est un ouf de soulagement pour nous de voir comment nos autorités ont travaillé pour arrêter cette personne qui a terrorisé la ville pendant plus d'une année. Nous demandons que son dossier soit traité dans toute transparence. Il a commis plusieurs forfaits, qu'il réponde de ses actes. Tout en remerciant ces éléments pour le travail abattu, le commissaire provincial de la police du Kwilu, le général Kanold Kamana, promet de mettre hors d'état de nuire tous les autres criminels.
Je ne peux que remercier les agents qui ont bravé la peine pour l'arrêter. Il y a deux jours, le célèbre Ferre a été arrêté et aujourd'hui, c'est le célèbre Serpent. S'il y a un autre, nous vous promettons que nous allons l'arrêter. Nous allons le pourchasser jusque dans leur dernier étrangement.
Le général Kanold Kamana appelle la population au calme et lui demande de dénoncer tous les inciviques. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
L'archidiocèse de Lubumbashi alerte sur la présence des hommes lourdement armés à la recherche de l'archevêque métropolitain. Les prélats catholiques se posent plusieurs questions et attendent des éclaircissements de la part de la hiérarchie de ces hommes armés. Plus de détails avec vous, Pierrot et la Mangi.
D'après le communiqué de l'archidiocèse de Lubumbashi, daté du vendredi 24 février dernier, intitulé « Un étrange escadron armé à l'archidiocèse de Lubumbashi », les membres de la curie diocésaine renseignent que ce vendredi, aux environs de 9h du matin, un convoi de véhicules des militaires lourdement armés se déclarant de la garde républicaine a stationné en face de l'archevêché avec leurs véhicules. Neuf d'entre ces hommes ont tenté de s'introduire dans l'enceinte de l'archevêché avec leurs véhicules, mais ils en ont été empêchés par les membres du service des gardiennages. Certains d'entre eux ont gagné le couloir du bâtiment en demandant de rencontrer Monseigneur l'évêque. C'est ainsi qu'un prêtre qui était présent les a conduits dans une autre salle cherchant à comprendre leur motivation. Le communiqué précise ainsi que cet escadron était piloté par un colonel qui s'exprimait en swahili, escorté par 6 hommes en uniforme détenant des armes de guerre. À en croire ces communiqués, ces hommes ont indiqué qu'ils étaient venus à l'archevêché prendre des dispositions sécuritaires en vue d'une manifestation religieuse qui aura lieu à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi au cours d'un séjour projeté du chef de l'État dans le Haut-Katanga. Une manifestation qui n'est connue d'aucune autorité de la province selon ses communiqués. Les prélats catholiques terminent ses communiqués par une condamnation de ce qu'ils qualifient de tentative d'enlèvement et une flagrante violation des domiciles et des lieux de culte, ce qui est un mépris de la liberté religieuse. Jusqu'à présent, les autorités n'ont pas encore réagi à ces communiqués.
Actualité internationale.
Des populations togolaises fuient les attaques terroristes et se réfugient au Bénin voisin. Ça se passe au nord où la région des savanes du Togo et la ville béninoise de Materi partagent une frontière. Ce sont les attaques violentes et très meurtrières survenues début février qui les font fuir. On compte près d'un millier de déplacés.
L'invité.
Notre invité est la sous-secrétaire générale de l'ONU aux droits de l'homme. Brand Keiris plaide pour l'aboutissement de l'adoption de la loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes. Selon elle, cette loi permettra à ces acteurs de bien jouer leur rôle, surtout en cette année électorale. Suivez.
Bonjour Madame Elizabeth Keiris.
Bonjour.
Pourquoi votre bureau a-t-il initié cette visite à cette période?
Ça a été une visite très riche dans le pays pendant une dizaine de jours. Mais en effet, on est allé aussi dans l'Est, dans les zones de conflit. Et surtout, c'est à Goma et à Bunia. On avait des plans depuis longtemps pour que je vienne ici en mission. Mais c'est vrai que la situation sécuritaire dans le pays, le conflit qui continue à l'Est, évidemment, rend justement cette visite dans les provinces du Nord Kivu et d'Ituri encore plus important. Sud Kivu aussi, mais malheureusement, j'ai pas pu m'y rendre. Mais je suis quand même très heureuse que j'ai pu faire cette visite parce que je sais qu'il y a des collègues qui sont venus une semaine avant qui n'ont pas eu ce privilège. Donc, c'est très important de rapporter ce que nous avons vu dans une situation vraiment difficile que vive la population. Et la souffrance que j'ai vue là-bas, les violations absolument extrêmes qui ont subi cette population depuis longtemps d'ailleurs déjà, mais qui continuent maintenant, c'est une bonne raison pour s'y rendre, pour les écouter, pour avoir aussi les autorités sur le terrain, les autres acteurs, la société civile, les acteurs humanitaires, pour pouvoir rapporter ces informations et ces impressions à New York, à Genève et ailleurs, pour contribuer aux discussions au niveau international.
Pendant votre rencontre, quelles sont les questions concernant le droit de l'homme qui ont été les plus évoquées par vos interlocuteurs?
Premièrement, c'est déjà une question de droit à la vie, n'est-ce pas? Quand on a des conflits comme ça, c'est absolument clair de mettre l'appui sur l'importance du droit à la vie de chaque individu et que donc c'est les questions sécuritaires. C'est clair que tous les acteurs, ont quand même soulevé cette question primaire d'avoir la sécurité pour se sentir en sécurité. On a aussi fait une visite à un camp de déplacés et là c'est certain que c'est des gens qui vivent depuis plusieurs années déjà dans des situations absolument précaires, premièrement, où des droits ne sont pas respectés parce qu'on n'a pas les moyens de les respecter, donc il y a toute une structure qui manque. Mais aussi justement, non pas seulement qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux parce qu'il n'y a pas la situation sécuritaire là où ils vivent qui le permet, mais aussi même dans les camps que la violence qui peut exploser à chaque moment et les attaques soudaines qui peuvent arriver, qui quand même rangent justement cette sécurité précaire là aussi. On a parlé beaucoup de la lutte contre l'impunité et je suis rassurée que quand même les autorités, comme j'ai vu, ont fait beaucoup d'efforts aussi d'essayer d'améliorer la situation de redevabilité parce que c'est clair que le cycle d'impunité, si ça continue, si on ne coupe pas, il y a le cycle de violence qui va continuer. Il y a beaucoup d'autres questions aussi qu'on a abordées, mais donc les questions de justice, les questions de justice transitionnelle, au-delà de la justice immédiate pour la redevabilité, et donc les enquêtes dont on a besoin, les preuves dont on a besoin.
Et quelles sont les actions que vous comptez mener pour le respect des droits de l'homme, surtout à l'Est, où chaque jour il y a des pertes de vies humaines et où les droits de l'homme sont régulièrement réduits à néant par plusieurs groupes armés, comme vous venez de le dire. notamment les M23.
Déjà, on a les équipes qui travaillent sur le terrain et c'est pour ça que j'ai été aussi très rassurée en voyant le travail excellent que font ces équipes qui font partie du bureau conjoint pour les droits de l'homme, aussi dans les provinces, et c'est très important de travailler à proximité. Donc on va continuer à travers de ces équipes d'avoir l'appui aux autorités pour les défis qu'ils ont encore, surtout pour la lutte contre l'impunité. C'est pas si simple que ça.
Après votre visite à Kinshasa et à l'est du pays, qu'est-ce que la population congolaise peut attendre de votre visite?
Mais malheureusement, je ne peux pas résoudre la situation. Ce qu'on peut faire, c'est de montrer déjà par la visite elle-même qu'on n'a pas oublié ni la République démocratique du Congo, ni surtout ce qui se passe aussi à l'est du pays, et que c'est pas seulement une question pour les politiciens, mais pour nous, de la perspective des droits de l'homme, de dire qu'on va apporter ces informations, ces témoignages. Vraiment, il faut arrêter cette violence et il faut absolument avoir aussi une réponse pour que ces personnes, ces gens et le pays en entier puissent retrouver une société paisible, mais aussi avec le respect de chacun, de dignité de chaque vie et de chaque personne qui y vit, de toutes les communautés.
Ilse Brains-Kerris, vous remercions de répondre à toutes nos questions.
Merci beaucoup.
Brent Kerris, sous-secrétaire général de l'ONU aux droits de l'homme, était l'invité de ce journal. Fin de ce journal qui a été supervisé par Pierrot et Lamengi. La technique était assurée par Pierre Diassounoua et Jean-Désiré Kanyama vous l'a présenté. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.